Frères et sœurs, avant de commencer ce discours, Inch'Allah, je voudrais vous informer sur l'exposition que nous allons faire dans le salle, Inch'Allah, l'exposition de fossiles. Ça va commencer dans une demi-heure. Donc, je m'appelle Ali Sardoulengui. Je suis un membre de la Fondation de la recherche scientifique qui se trouve en Istanbul, Turquie. Et je présente M. Adnan Antaş. Et donc, ce soir, on va parler du sujet de l'origine de la vie, la théorie de l'évolution. Est-ce que c'est une théorie scientifique? Est-ce que ça peut apporter une explication sur l'origine de la vie? Et, d'autre part, il faut un petit peu parler sur l'importance de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, quand il a été supposé par Charles Darwin, à la deuxième période du 19e siècle, il a essayé d'apporter une autre explication qui ne laisse pas d'espace pour une intelligence, pour un créateur. Donc, cette théorie a été la base soi-disant scientifique pour l'athéisme et le matérialisme. Donc, c'est très important pour les musulmans, pour les croyants, pour comprendre et pour pouvoir expliquer la réfutation de la théorie de l'évolution. Parce qu'on va voir que la théorie de l'évolution n'est pas scientifique. Ils n'ont aucune preuve scientifique qui peut apporter sur les sujets que je vais parler maintenant, Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne le sujet de l'origine de la vie, si vous voyez un être vivant devant vous, il peut y avoir seulement deux explications possibles. La première explication, c'est la création. Que tous les êtres vivants ont été créés par une intelligence supérieure. La deuxième explication, c'est la théorie de l'évolution, qui suppose que tous les êtres vivants sont des résultats des chances et des coïncidences, et tous les êtres vivants sont descendus d'un ancêtre commun, d'une unicellulaire, d'une vitalité unicellulaire, disons des milliards et des milliards d'années d'avant. Donc ce fait, le fait que seulement deux alternatives, deux réponses différentes, est aussi accepté par les scientifiques évolutionnistes, Douglas Futuyma et Andrew. Douglas Futuyma dit, quand nous regardons la vie sur Terre, nous voyons que la vie émerge tout à coup. Si nous voyons que la vie émerge tout à coup, avec sa forme parfaite et complète, alors nous devons admettre que la vie est créée, non le résultat du hasard. Donc, ce qu'il dit, c'est si on voit la vie, tous les êtres vivants, qui apparaissent soudainement, tout d'un coup, donc il admet qu'on doit accepter qu'ils ont été créés par un créateur. Donc, on va analyser ça dans les slides suivants. Donc, nous avons des questions à poser aux défendeurs de la théorie de l'évolution. La première question, c'est si un tel processus évolutif a eu lieu dans le passé, donc nous devons comprendre l'origine de la vie. Comment la vie est-elle apparue sur Terre? Quelle est l'origine? Comment se fait-il que la première cellule vivante a été formée sur la Terre? La deuxième question, c'est quels sont les mécanismes de l'évolution? Quels sont les pouvoirs qui poussent ce processus évolutif? Et la troisième question, c'est si toutes les espèces sur Terre étaient le résultat de l'évolution, alors il aurait dû y avoir une vaste quantité de preuves de fossiles. Existe-t-il de tels fossiles? Nous savons que les fossiles sont des preuves scientifiques qui nous montrent le passé des êtres vivants. Est-ce que nous avons des fossiles qui prouvent ce processus-là? Donc, je vais expliquer dans mon discours d'une manière très simple, Inch'Allah, si vous avez des questions en détail, Inch'Allah, après le discours, nous allons avoir des questions. Mais d'une manière très simple, La première cellule, l'origine de la première cellule, c'est inexplicable par les évolutionnistes parce que même un seul protéine, l'origine d'un seul protéine, ne peut, les évolutionnistes ne peuvent pas expliquer l'origine d'une seule protéine parce que c'est pratiquement mathématiquement zéro. Et pour avoir, pour produire un seul protéine, vous avez besoin des autres protéines. Disons plus de 100 différents types. Pour la production d'une seule protéine, il faut 100 protéines diverses, pas une ou deux. Donc, si les autres protéines n'existent pas, vous ne pouvez pas produire, c'est un fait scientifique, vous ne pouvez pas produire des autres protéines. Et ce n'est pas suffisant encore. Disons que dans la cellule, il y a beaucoup d'organelles. Par exemple, la mitochondrie, endoplasme réticulum, le nucléus, le Golgi apparatus, le membrane de la cellule. Donc, vous devez avoir tous ces organelles-là existants, tout fonctionnant parfaitement. Et si un de ces organelles-là est absent, vous ne pouvez pas produire un seul protéine. Ce n'est pas possible du tout. Et de plus, la cellule vit d'une manière très intelligente. Par exemple, la membrane. La membrane, c'est quelque chose d'intelligent. Disons, s'il y a un virus, par exemple, qui essaie de rentrer dans la cellule, la membrane est capable de comprendre, de voir et de faire des plans. Elle est capable de faire des plans pour le futur. Donc, il voit que le virus n'est pas bon pour la cellule, donc il ne laisse pas rentrer. Et de plus, d'autre part, par exemple, si un sucre, une molécule de sucre qui veut rentrer dans la cellule, la membrane est capable de comprendre que c'est bon pour la cellule, donc il laisse rentrer. Donc la membrane est quelque chose d'intelligente. D'autre part, la cellule c'est si complexe que si même vous avez tous les matériaux nécessaires, un vivant, pour produire une seule cellule, ce n'est pas possible dans le temps ou ce n'est pas possible par les expériences dans les laboratoires. C'est si on peut faire une allégation, une comparaison. Par exemple, réfléchissez à un grand bâtiment, disons un gratte-ciel. Vous savez très bien que l'élément base des gratte-ciels, c'est du ciment, du fer, n'est-ce pas? Il y a les fenêtres, les portes, les systèmes de chauffage, les systèmes d'électricité. Et donc, tous les matériaux nécessaires, vous le prenez et vous le jetez sur la rue. Est-ce qu'il est possible que tous ces matériaux nécessaires pour produire un gratte-ciel peut former, peut construire un gratte-ciel dans le temps, par les chances, par les conditions de temps? Est-ce que c'est possible? Non, bien sûr non. Parce que nous savons très bien que pour construire un gratte-ciel, vous avez besoin de l'intelligence. Disons des ingénieurs. Des ingénieurs doivent faire des plans et vous avez besoin des ouvriers. Des ouvriers doivent travailler sur ces plans et faire la construction de ces gratte-ciel. Donc, similairement, si vous avez tous les mêmes matériaux nécessaires, disons les protéines, les aminoacides, le Golgi apparatus, tous ces organelles-là, si vous les avez dans la main, donc ce n'est pas possible par la chance parce qu'on a compris que quand nous sommes au 21e siècle, la science a compris que vous ne pouvez pas produire vitalité avec des matériaux invivants. Donc la théorie de l'évolution s'effondre dès le stade initial de l'œuvre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas nécessaire, c'est pas la peine de discuter sur les spéculations quand nous sommes descendus du singe ou pas, c'est pas la peine de discuter ça. Parce que juste au début, les évolutionnistes n'ont aucune explication à faire sur ce sujet-là, sur les protéines. Donc, nous avons voulu tester cette hypothèse-là. L'hypothèse, c'est dans le temps, tous les matériaux invivants, ils sont capables de produire la vitalité. C'est la supposition évolutionniste. Donc, nous avons voulu tester ceci. Donc, nous disons que tous les matériaux nécessaires, les défenseurs de la théorie de l'évolution, ils peuvent les prendre, tous ces matériaux-là, et le mettre dans un baril comme ça. et dont, disons, toutes les molécules, tous les aminoacides, qui ne peuvent pas se produire pendant le temps, par des chances. Donc, on dit, c'est pas nécessaire, nous allons vous donner les protéines. Et donc, si ça ne suffit pas, vous pouvez prendre des autres protéines que vous voulez. Si vous ne pouvez pas le trouver sur la Terre, vous pouvez le prendre de la Lune, par exemple. Ici, si ça ne suffit pas, vous pouvez attendre autour de cette planète pour des milliers d'années. Et vous pouvez faire le chauffer, ou bien vous pouvez donner de l'électricité dans les laboratoires. Vous pouvez faire des expériences. Et vous pouvez inviter les autres scientifiques autour de cette planète et attendre pour des milliers d'années. Et ce que nous faisons, c'est que dans ce valide-là, vous ne pouvez pas obtenir tous les êtres vivants. Par exemple, les chiens, les chats, les lions, comme ça, toutes les plantes, les fleurs, ne vont pas sortir de cette barrière. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a compris que les expériences, avec les expériences dans les laboratoires, ce n'est pas possible d'obtenir la vitalité à partir des éléments, à partir des matériaux invivants. C'est Louis Pasteur qui a dit ça. Louis Pasteur a dit, au début du XXe siècle, la vie seulement vient de la vie. Pour avoir la vie, vous avez besoin des autres cellules, des autres protéines vivantes. Donc, le deuxième point, c'est quels sont les mécanismes de l'évolution. Selon les défenseurs de la théorie de l'évolution, ils ont deux mécanismes différents. Ce sont la sélection naturelle et les mutations. Donc, ils sont deux mécanismes complémentaires. Et ces deux mécanismes complémentaires, les mutations permettent les changements génétiques dans la structure génétique des êtres vivants. Et donc, ces changements sont sélectionnés par la sélection naturelle. Et donc, de cette façon-là, tous les êtres vivants évoluent. Mais on sait bien que qu'est-ce que c'est les mutations, premièrement? Ce sont les changements où, quand les mutations sont toujours nuisibles pour les êtres vivants, parce que ça déchire l'ADN et les nucléotides dans l'ADN. Ce sont les nucléotides adénine, thymine, guanine et cytosine. Donc, ils changent les places, ça déchire la place. On sait scientifiquement que 99% des mutations sont nuisibles. Et seulement 1% est neutre. Ça veut dire qu'il ne fait rien du tout. Qui n'est pas nuisible, mais qui n'est pas bénéfique non plus. Donc, c'est causé par les rayons X, les chimiques et les ultraviolets radiations. Donc, mais le résultat, c'est toujours nuisible. Voilà, le résultat des mutations que nous avons, comme vous savez, les bombes atomiques qu'on a après la Deuxième Guerre mondiale, à Tchernobyl, bien en Russie, ce sont les résultats des mutations. C'est seulement déchirer ou changer la place des nucléotides dans les êtres vivants, ce n'est pas bénéfique. Donc, ce que les mutations, ce que les évolutionnistes doivent nous montrer, c'est qu'ils doivent nous montrer des mutations bénéfiques qui peuvent ajouter de l'information dans l'ADN, mais on sait très bien que il n'y a aucun mécanisme dans la nature qui peut ajouter une information dans l'ADN des êtres vivants. Et de plus, ce n'est pas suffisant d'ajouter l'information. L'information que vous ajoutez dans l'ADN doit être d'une manière intelligente. Par exemple, imaginons un livre d'histoire qui est formé de, disons, 12 chapitres. Si vous voulez ajouter une information dans ce livre-là d'une manière qui a un sens, n'est-ce pas? Donc, l'écrivain doit écrire des phrases qui sont en continuité avec les chapitres précédents, n'est-ce pas? Donc, s'il n'y a pas de l'intelligence de l'écrivain, donc vous ne pouvez pas avoir le 13e et le 14e chapitre. Donc, l'information que vous ajoutez doit être d'une manière intelligente. Mais les mutations, nous savons que ce sont les résultats des hasards, des chances. C'est seulement change les places des nucléotides. C'est un évolutionniste, non, il va noter. Tout d'abord, les véritables mutations sont très rares dans la nature. Deuxièmement, du fait qu'elles sont aléatoires, la plupart des mutations sont nuisibles, car n'obéissant pas à des changements ordonnés dans la structure des gènes. Le moindre changement aléatoire dans un système extrêmement ordonné se fera de la pire des façons. Par exemple, si un séisme devait secouer une structure telle qu'un bâtiment, cela entraînerait un changement aléatoire dans les fondations de l'édifice qui, selon toute probabilité, n'apporterait aucune amélioration. Ce mot est très important, amélioration, parce que l'évolution continue d'une façon avec des changements petits, graduels, cumulatifs, qui apportent un bénéfice, disons un avantage pour l'être vivant. C'est comme monter les escaliers un par un, et chaque niveau, l'être vivant doit se transformer en une forme qui a plus d'avantages, qui est plus formé. Donc, s'il n'y a pas d'avantage pour l'être vivant, ce changement-là va être sélectionné par la sélection naturelle et va éliminer. Et dans les laboratoires aussi, les expériences sur les mouches de fruits, ils ont essayé, les scientifiques ont essayé d'obtenir des mutations bénéfiques, mais pour plus de 40 ans, ils n'ont obtenu aucune mutation bénéfique sur les mouches de fruits. Je vais passer rapidement celui-ci. Donc, pourquoi la mutation n'est-elle pas un mécanisme évolutionnaire? Le premier point, c'est l'effet direct des mutations est nuisible. Les mutations n'ajoutent jamais de nouvelles informations à l'ADN de l'organisme. Est-ce qu'on a le son ici? Je vais essayer. Je vais vous montrer Richard Dawkins. Richard Dawkins est un scientifique qui vient d'Angleterre et il est le numéro un athée évolutionniste dans tout le monde entier. Il a écrit des livres sur ce sujet-là. Donc, dans cette interview-là, ce monsieur que vous voyez va demander cette question. C'est en anglais, je vais traduire. Il demande, professeur Dawkins, pourriez-vous nous montrer un système ou un mécanisme évolutionnaire qui peut ajouter de l'information dans le génome de l'être vivant? Est-ce qu'il y en a tel mécanisme? Et on va répondre, on va voir la réponse de Richard Dawkins.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Voilà la réponse. On a la réponse. Parce que scientifiquement, on sait très bien qu'il n'y a aucun mécanisme intelligent dans la nature qui peut ajouter de l'information dans le génome des êtres vivants. Et Richard Dawkins le sait très bien. Et il a écrit des livres sur ce sujet. Et c'était pendant les deux dernières années que, dans un film qui est produit aux États-Unis, il a dit qu'on d'origine, il a changé la vie. Enfin, il a dit que l'origine de la vie appartient aux extraterrestres. Les extraterrestres, il a dit, ils ont apporté la première cellule vivante sur la Terre, parce qu'il sait très bien que l'origine, une seule cellule vivante ne peut pas se former par les conditions de temps, par les chances et par les coïncidences. C'est pas possible du tout. Donc, il est ce monsieur-là qui le sait très bien. Et donc, il a changé la vie. Donc, les évolutionnistes n'ont aucune explication sur l'origine de la vie. Parce que les mutations ne sont pas conscientes de la symétrie, ni de l'harmonie, ni de l'ordre, ni du nombre d'ordres. Vous savez très bien que nous avons une symétrie sur le visage, nous avons deux yeux symétriques, nous avons deux jambes symétriques, vous savez. Et il y a la symétrie dans la nature, par exemple. Vous pouvez voir le dessin sur les ailes des papillons. Ce sont symétriques. Et donc, les mutations, puisqu'ils sont des résultats des hasards et des chances, les mutations ne peuvent pas produire la symétrie qui est dans la nature. C'est pas possible. Et de plus, je vais vous montrer une entité non vivante. Il n'y a pas de vitalité sur ce flacon de neige. Pas de vitalité. Et il y a une symétrie. De plus, il y a le nombre d'heures. Et en plus... Et de plus, ils ont toujours 6 côtés. 6 côtés, pas 5, pas rectangulaire, pas triangulaire. Non. Vous prenez un flacon de neige des États-Unis, c'est 6 hexagones. Vous prenez un flacon de neige de France, c'est à 6 côtés. Et en plus, nous savons que scientifiquement, un flacon de neige a un dessin unique dans tout le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas trouver un deuxième dessin comme celui-ci dans tout le monde entier. Voilà, les autres flacons de neige, 6 côtés, symétrie, nombre d'or. De plus, voilà, des dessins uniques dans tout le monde entier, des millions, des trillions de flacons de neige qui sont tout à fait différentes. Et de plus, les autres flacons de neige, et de plus, si les évolutionnistes ne sont pas satisfaits, voilà, des milliers de flacons de neige qui ont des dessins différents. Et dans ce flacon de neige, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de nucléotides. A, T, Z, G n'existe pas. Donc les mutations ne peuvent faire rien du tout. Ce flacon de neige se consiste seulement de H2O, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et la cristallisation de H2O dans les cieux nous montre seulement une explication de la création supérieure, de l'intelligence supérieure de Allah, de Dieu, Inch'Allah. Il ne peut y avoir aucune autre explication. Je répète encore une fois, la sélection naturelle et les mutations peuvent faire quelque chose s'il y a la vitalité sur les êtres vivants. S'il n'y a pas de vitalité comme celui-ci, ces dessins-là, ces images-là, ne sont pas explicables par la mutation, les mutations et la sélection naturelle. Donc, nous continuons. La troisième question, c'est, y a-t-il aucune preuve de fossiles prouvant l'évolution? Donc, dans le passé, ils disent que ce sont des êtres vivants à partir, par exemple, d'une forme unicellulaire dans les profondeurs des océans. Ça a formé par chance et toutes les autres espèces ont évolué à partir de cette forme unicellulaire. Ancêtres communs, à la fin, l'espèce humaine ont évolué des êtres vivants qui ressemblent aux singes. Ils n'ont pas utilisé le mot singe, ils ont plutôt dit un ancêtre commun, mais ce n'est pas important du tout. Donc, ce que nous devons voir, si les évolutionnistes veulent nous convaincre, ils doivent nous montrer des fossiles, des preuves scientifiques des fossiles. Mais ça ne doit pas être les fossiles qui appartiennent aux espèces stables comme ça. Les espèces stables, le mot stable, qu'est-ce que ça veut dire? Avec des mots, avec des organes complets, parfaits, avec le symétrie. Mais les évolutionnistes doivent nous montrer des fossiles asymétriques, pathologiques. Asymétrique, pathologique, qu'est-ce que ça veut dire, pathologique? Par exemple, un jambe qui sort du dos, ou bien un œil sur le genou. C'est quelque chose, une créature qui ne ressemble à rien du tout. Mais tous les êtres vivants que nous voyons autour de nous sont si bien définis. Et ils appartiennent tous aux espèces stables, avec des organes complets, parfaits, tout fonctionnant. Donc, ils doivent nous montrer des formes intermédiaires comme ça, des fossiles transitionnels, des formes transitionnelles qui est entre des espèces stables. Ils disent que l'étoile de mer s'est transformée en un poisson. C'est la supposition darwiniste. Dans 100 millions d'années, Bon, il faut bien réfléchir, parce que 100 millions d'années, ce n'est pas court du tout. C'est une longue temps, la période, c'est très longue. 100 millions d'années, pas 1, 2, pas 10, pas 20. Donc, normalement, le processus de développement que vous voyez ici, que nous avons représenté par seulement trois illustrations, doit être en fait plus de milliers de formes intermédiaires. Parce que 100 millions d'années est très long. Et les fossiles, est-ce que nous trouvons des fossiles appartenant aux étoiles de mer? Oui, nous trouvons combien de milliers de fossiles d'étoiles de mer nous en avons?
Et vous allez voir, nous allons vous montrer. Est-ce que nous avons des fossiles appartenant aux poissons? Oui. Combien? De milliers. Et donc, mathématiquement et statistiquement, quel doit être le nombre des fossiles qui appartiennent aux formes intermédiaires?
Disons de trillions de fossiles intermédiaires nous devons trouver. Un autre exemple. Vous montez sur la montagne. Nous recherchons des fossiles dans l'estrate de la Terre. Donc, nous trouvons, disons, 2000 fossiles. 2000 pièces de fossiles. Et quand on regarde, quand on analyse tous ces fossiles-là, statistiquement, si la majorité, disons 95% de ces fossiles-là, appartient aux formes intermédiaires, et seulement 5% de ces fossiles appartient aux, par exemple, aux étoiles de mer et aux poissons, donc on peut imaginer de tels processus. Mais quand on trouve des milliers de fossiles, ils appartiennent tous à des formes stables. Nous n'en avons aucun, il n'y a aucun, zéro. Zéro forme intermédiaire de fossiles, il ne peut pas nous montrer. Et donc c'était 3 années avant que M. Adnan Mokhtar a promis qu'il va donner plus de 7 millions de dollars à qui ils peuvent apporter un seul fossile intermédiaire, transitionnel. Personne n'a apparu, parce qu'il n'y en a aucun. Et donc, ce problématique-là, voilà, c'est un sauterelle âgée de 125 millions d'années, c'est la fossile. Vous voyez, c'est la sauterelle de nos jours. Est-ce qu'il y a un changement? Aucun changement, c'est tout à fait identique. Tous les organes, vous voyez sur le fossile, sont tous complets. La tête, les antennes même, vous pouvez voir. Tous les ailes sont tout à fait identiques. Et il y en a plus de 350 millions d'exemples de fossiles qui appartiennent aux formes stables, des espèces stables. 350 millions de fossiles nous prouvent la création, mais pas d'autre chose. Et de plus, voilà, les fossiles de lézards, âgés de 210 millions d'années, vous voyez, 210 millions d'années, c'est tout à fait le même. Pas de changement. Où est l'évolution? Pour 210 millions d'années, les lézards n'ont pas changé du tout. Et de plus, voilà, grenouille. 505 millions d'années, c'était exactement le même grenouille que nous voyons aujourd'hui. Pas de changement, pas de développement, rien du tout. Et de plus, voilà, les fossiles d'ambre. Vous voyez, ce sont les mouches. Et sont toujours identiques. Voilà, les fossiles des guêpes âgés de 54 millions d'années. Vous voyez, c'est tout à fait différent, tout à fait la même. C'est unique. Et de plus, voilà, les fossiles de fourmis, 40 millions d'années. Vous voyez, c'est comme on a pu prendre le photo. C'est exactement la même. Où est l'évolution? Où est le développement? Les termites d'aujourd'hui, vous voyez ici, et voilà. Un fossile de termite âgé de 20 millions d'années. 20 millions d'années avant, le termite était exactement le même. Pas de changement, pas de développement. Voilà, les fossiles de sauterelles, vous voyez ici, pas de changement. Les fossiles de papillons gris, 54 millions d'années. Tout à fait, c'est tout détaillé. Il faut bien réfléchir sur ça. C'est... On peut même voir les petits détails sur l'aile. C'est exactement le même. Où est l'évolution? Et nous avons 350 millions de fossiles déterrés aujourd'hui et on ne peut trouver aucune forme intermédiaire qui doit prouver l'évolution. C'était bien sûr Charles Darwin qui avait été inquiété sur le sujet. Il dit son livre, si les espèces héritent d'autres espèces par des degrés insensibles, pourquoi ne rencontrons-nous pas d'innombrables formes de transition? Il accepte ce fait-là. Il dit, pourquoi je ne vois pas des formes intermédiaires? Dans son livre, c'est à la deuxième moitié du 19e siècle quand il dit ça. Et il continue, pourquoi tout n'est-il pas dans la nature à l'état de confusion? Il dit que pourquoi on ne voit pas la nature dans un état de confusion? Le mot confusion, qu'est-ce que ça veut dire? La confusion, c'est asymétrie et pathologique. Il dit que pourquoi tous les animaux, on ne voit pas des organes incomplets, mi-développés, asymétriques, pathologiques? Il dit qu'il sait très bien qu'ils sont très bien définis. Pourquoi les espèces sont-elles si bien définies? Pourquoi elles sont toujours symétriques? Il dit. Il continue. Pourquoi ne trouvons-nous pas des dépôts riches de fossiles appartenant à ces périodes primitives? C'est là une question à laquelle je ne peux faire aucune réponse suffisante. Donc, il n'a aucune réponse parce qu'il n'y a pas eu un tel processus d'évolution dans le passé. Ce sont des preuves scientifiques qu'il n'y a pas eu de tel processus. Donc, c'est une période qui s'appelle l'ère cambrienne, la période cambrienne. Peut-être le mot cambrien n'est pas très familier avec vous, mais je vais expliquer. C'est la première période de la vie et dans laquelle nous rencontrons les premiers êtres vivants. Donc ces premiers êtres vivants, tout d'un coup, apparaissent soudainement avec 50 phylums différents. Phylum, le mot phylum, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot scientifique. Le phylum, ça veut dire les groupes des animaux. Par exemple, les invertébrés, les mollusques, par exemple, sont des groupes et se sont appelés les phylums. 50 différents groupes d'animaux apparaissent soudainement dans l'histoire de la vie. Ce sont des animaux qui sont très complexes avec leur système de, par exemple, circulation, avec les yeux. Je vais vous montrer, je vais vous donner un exemple. Et ils n'ont aucun ancêtre préalable. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver des autres vivants qui ont vécu avant la période cambrienne. Donc, on ne peut pas montrer des êtres vivants qui peuvent être pour les candidats pour être l'ancêtre de ces animaux-là. Donc, c'est Stephen Jay Gould qui dit, c'est un évolutionniste, les archives fossiles ont causé à Darwin davantage de peine que de joie. Rien ne l'a attristé plus que l'explosion cambrienne. L'apparition de presque tous les concepts organiques complexes est soudainement, si vous vous rappelez, dans la première slide que je vous ai montrée, c'était Douglas Cusuma qui disait, si on voit que tous les êtres vivants apparaissent sur la Terre soudainement, il disait, donc nous devons admettre que la vie a été créée. Donc, la période cambrienne, l'ère cambrienne, nous montre scientifiquement que la vie a été créée soudainement. Et c'est le trilobite, un animal qui est âgé de 520 millions d'années, a un organe qui est très complexe, il a un œil qui est très complexe, qui se forme des petits hexagones que vous voyez là, et chaque hexagone contient deux lentilles. Nous avons deux lentilles chez les hommes, mais ce petit animal-là, dans un œil, il a plus de 500 différentes lentilles, et totalement dans deux yeux, il a plus de 1200 lentilles. Pour pouvoir résister à la pression dans les profondeurs des océans. Et ça lui donne une capacité qui peut voir très très complexe. Et de plus, la complexité chez les insectes aujourd'hui est exactement la même. La structure des yeux est tout à fait la même si vous les comparez avec les yeux de trilobites. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous rappelez la supposition darwiniste, il disait que tous les êtres vivants doivent évoluer d'une manière de au début à la stade primitive, et ils doivent évoluer dans le temps avec des changements minuscules et cumulatifs jusqu'à un stade complexe, comme monter des escaliers, si vous vous rappelez. Mais est-ce qu'il y a un changement de niveau de complexité chez les êtres vivants? Non. Parce que l'œil avait exactement le même niveau de complexité si vous les comparez avec les structures des yeux des insectes qui vivent aujourd'hui. Donc, ce trilobite-là refute la théorie de l'évolution, la complexité dans l'œil. Voilà, le mythe de la transition de la mer vers la terre. Ils disent que les évolutionnistes prétendent que les poissons, dans le passé, ont décidé de marcher sur la terre. Ils ont décidé de sortir de l'eau et marcher sur la terre. Donc, c'est une supposition qui est très sérieuse. C'est très sérieux parce que les structures de ces animaux-là, si vous les comparez, c'est tout à fait différent. Parce que chez les poissons, vous savez, il y a des brancheries. Les brancheries utilisent l'oxygène qui est mélangé dans l'eau, vous savez. Et donc, les reptiles utilisent des poumons pour respirer. C'est-à-dire, ils utilisent l'oxygène qui est dans l'atmosphère. Donc, il faut que ces brancheries-là se transforment en des poumons. Mais on a vu qu'il n'y a aucun mécanisme dans la nature qui peut ajouter de l'information dans la structure génétique. Et ce n'est pas suffisant, il faut changer tous. Parce que les poissons ont des nageoires, celles-ci devraient se transformer en pattes. Et ce n'est pas suffisant non plus. Les brancheries doivent se transformer en des poumons. Le mécanisme porteur du poids des poissons est adapté aux conditions sous-marines. Il devrait être adapté aux conditions terrestres. Les os, vous savez que les vertébrés, la structure des os sont tout à fait différentes si vous le comparez avec les os de poissons. Et ça doit se transformer en des vertébrés. Le métabolisme des poissons est adapté aux conditions sous-marines. Il devrait être adapté aux conditions terrestres. Voilà, le métabolisme aussi doit se adapter sur les conditions terrestres. Donc, c'était ce légende prétendue par les évolutionnistes, était de forme intermédiaire, était de forme transitionnelle, soi-disant scientifique, mais on a compris que, je ne veux pas aller dans le détail, mais nous avons compris que ce n'était pas une forme intermédiaire. Ils disaient que leur espèce a été éteinte dans le passé, mais c'était Charles Curtin Latimer, un scientifique à Sud-Afrique. Il a pêché les poissons, les sélécantes vivantes dans notre jour. Donc on a vu que les sélécantes n'étaient pas des formes transitionnelles. Donc, quelle est l'origine des oiseaux?
Le vol, c'est très complexe, comme vous le savez. La structure des ailes, la structure des plumes. C'est seulement dans le 19e ou 20e siècle que l'humanité a pu imiter cette action-là, voler. C'est très complexe. Il y a vous voyez, des oiseaux comme ça qui sont capables de battre des ailes, disons, au moins 10 000 fois par une seconde. En une seconde, ils peuvent battre
des ailes 2 000 fois. Donc, il faut expliquer, il faut nous montrer un candidat qui peut être un ancêtre pour les oiseaux, et ça doit être scientifique. Mais l'explication évolutionniste a choisi un groupe d'animaux qui est très intéressant. Ils ont choisi les reptiles, et parmi les reptiles, ils ont choisi les oiseaux, les dinosaures, c'est très intéressant. Ils ont dit que c'était les dinosaures dans le passé qui se sont transformés en des oiseaux. Voilà. Ils ont deux théories différentes, et la théorie s'appelle la théorie cursoriale, et la deuxième, c'est la théorie arboricole. Ils ont des mots latins, mais je vais vous expliquer. Et c'est à vous de vous juger vous-même s'ils sont scientifiques ou pas. Ils disent que la théorie cursoriale dit que c'était les dinosaures qui essayaient d'attraper, qui étaient en train de chasser des animaux. Ces pattes de devant se sont transformées en des ailes. Et les autres, les théories d'arboricole, ils ont dit que non, c'est pas comme ça, les dinosaures qui sautaient d'un arbre à un autre se sont transformés en des oiseaux. Voilà. Deux théories scientifiques. Voilà, c'est une illustration que vous voyez là, que nous avons pris des sources évolutionnistes. Ce n'est pas nous qui l'a dessiné. Ces illustrations-là, nous avons pris des sources évolutionnistes. Voilà, au début, le dinosaure est en train de... il est après le poursuivre d'une mouche. Voilà, de petit à petit, les pattes de devant se transforment en des ailes. Et à la fin, hop, il peut voler. Vous voyez. Donc, dans ce scénario-là, c'est très intéressant. Nous sommes en face des scientifiques qui essaient d'expliquer l'origine du vol en utilisant un élément dans ce scénario qui vole déjà. Cette petite mouche-là vole déjà. C'est pas intéressant. Mais donc à ce moment-là, je dois demander la question, ne serait-il pas plus facile d'expliquer l'origine de ce petit mouche-là au lieu de faire ce dinosaure extravagant voler, de faire voler ce dinosaure extravagant. Mais donc, comme vous savez, la complexité devient beaucoup plus quand le volume se diminue. Ce petit mouche-là est capable de battre des ailes en 1000 fois en une seconde, et c'est complexe. Comme vous savez, si vous voulez attraper une mouche, ce n'est pas facile. Il peut faire des manœuvres très rapides. Il peut monter sur le toit ou sur le mur, et la manière de... ils sont capables de faire des manœuvres très complexes. Donc, les évolutionnistes n'ont même aucune explication sur l'origine du vol chez les mouches. Voilà, Archaeopteryx, ils ont dit que Archaeopteryx était une forme intermédiaire dans les dinosaures et les oiseaux. Mais on a vu scientifiquement que ce n'est pas possible parce que, premièrement, le magazine Science, qui a accepté Science, c'est une magazine scientifique aux États-Unis, et ils sont évolutionnistes, ils acceptent que l'Archaeopteryx ne pourrait probablement pas nous dire grand-chose sur les origines des plumes et du vol chez les vrais proto-oiseaux, parce que l'Archaeopteryx était, au sens moderne, un oiseau. C'était un oiseau dont l'espèce est éteinte. Donc, il était un oiseau volant. Et de plus, on a trouvé des fossiles des oiseaux qui vivaient à la même période que l'Archaeopteryx. Confucius âgé de 120 millions d'années, c'est un oiseau, et Nyaringolis de 120 millions d'années, qui vivaient dans la même période que l'Archaeopteryx, donc ça nous a montré que l'Archaeopteryx ne peut pas être l'origine des oiseaux. Et l'origine des mammifères marins. Comment ils sont apparus? Quels sont les ancêtres des mammifères marins? Parce qu'il y a un problème ici. Vous savez très bien qu'il y a des mammifères marins qui pèsent plus que des baleines, qui pèsent plus de 60 tonnes et de au moins 30-40 mètres de longueur. Donc il n'y a aucun, même pas un être vivant sur la Terre qui peut être le candidat d'être pour l'ancêtre des mammifères. Mais c'est très intéressant que Charles Darwin a choisi un animal très intéressant. Il a dit que c'était les ours. Les ours qui se sont transformés en des baleines. Les ours qui jouaient dans les rivières, qui essayaient de rattraper les poissons. Les ours qui étaient en train de pêcher, se sont transformés en des baleines. Mais cette explication-là, même les autres évolutionnistes n'ont pas aimé ceci et ils ont enlevé cette explication dans les éditions postérieures de son livre. Le mythe concernant la soi-disant évolution de l'homme. Donc, sur ce sujet-là, ils sont capables de faire des spéculations. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y avait plus de 6000 différentes espèces de singes qui ont vécu. 6000. Bon, la plupart de ces espèces de singes ont éteintes. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, nous avons, disons, 142 à 145 différentes espèces de singes qui vivent aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire? les vestiges des singes qui sont atteints donnent une source, disons, très grande pour les évolutionnistes. Quand ils trouvent les crânes, les os, les mâchoires des singes qui sont disparus, qui sont atteints dans le passé, ils les prennent et ils les prennent et ils forment un arbre imaginaire comme ça. Ce sont des singes qui sont vécus dans le passé, mais leur espèce sont éteintes. Ils les alignent, par exemple, à partir de ce volume de crâne ou bien la longueur des os. Et à la fin de cette chaîne imaginaire, ils ajoutent les os des races humaines qui sont éteintes, disons les Néandertals. Les Néandertals étaient une race humaine qui ont vécu, disons, 200 000 avant de notre jour, et ils sont éteints à peu près 60 000 années avant de notre jour. Donc, les os, les fossiles de Néandertals...
Elçilerini hidayet ve hak dinimize de gönderen O'dur. Öyle ki O'nu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Bir başka ayette ise Allah, İslam ahlakını tüm yeryüzüne yerleşik kılacağını şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır.
Veteriner hekimim. Zaten fosillerle bunlarda evrim teorisi tamamen tarihe gömülmüş oluyor.
Bu fosiller gerçeği yansıtıyor. Çünkü canlı örnekler, gerçek örnekler.
Üniversite öğrencisiyim. Sergi gerçekten çok güzel. Evrim aldatmacasını gözler önüne seriyor.
Sergi çok gerçekçi buldum ve inanıyorum artık evrim teorisi diye bir şeyin olmadığına.
Ben arkeoloğum aynı zamanda. Burada da gördüğümüz kadarıyla evrim teorisinin bu anlamda bir safsata olduğu anlaşılmaktadır.
Evrim teorisi zaten artık 21. yüzyılın bir teorisi değil. Köhne bir teori.
Yıllar önce... Çürütülmüş bir teori hala bazı çıkar çevreleri tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.
Yıllardır öğrencilere evrim teorisi diye bir iddianın olduğu, ara geçiş formlarının milyonlarca olduğu söyleniyor. Ama delil olarak bir tane bile gösterilmedi bize. Yani zaten ara geçiş formu yok. Olanlar da sahte ve bulunan bütün fosiller değişmemiş. Yani bu yani çok mükemmel, çok güzel bir olay.
A poll on French scientific website has revealed that people no longer believe in evolution. Following the major impact of the distribution of the Atlas of Creation in France, the French website Science Actualité carried out a public opinion poll. The results of the survey show that Darwinism has been annihilated in France. The findings, set out under the caption, Your Views on Evolution, revealed that 92% of the public no longer believe in evolution. Darwinism has also been demolished in Germany, which now says God created life. The German daily Die Welt, one of the country's most important publications, conducted a poll about creation on its website. 86% of the participants responded to the question, How do you think life came into being? By saying, God created it. The Danish people no longer believe in evolution. According to the results of a survey conducted on its website by the daily Ekstra Bladet, one of Denmark's highest circulation publications, Danes no longer believe in evolution. Asked, do you think that human beings are descended from apes? 88% of the Danish public answered no. According to a poll in Germany, the public no longer believe in evolution. They say, evolution, no thanks. According to a poll regarding whether or not evolution actually happened that appeared on the website of Süddeutsche Zeitung, one of Germany's main dailies, the level of those believing that human beings are the work of a creator stands at 87%. According to a survey in Switzerland, the public say that creation should be taught. The level of people believing in the fact of creation stood at 85% in a poll conducted on the website of Blick, one of Switzerland's widest read newspapers. It is no longer possible to save Darwin, and by extension, the theory of evolution bequeathed by him. The true facts have been revealed, and the false masks worn by those who lied in the name of science have been torn away. And Charles Darwin has gone down in history as the founder of the greatest scientific fraud in the history of the world. Evolutionist attempts to regain their lost prestige are therefore all in vain. The fact of creation is continuing to spread ever wider in a manner that cannot be prevented. The latest developments, some instances of which we have seen in this film, have revealed a most significant truth. No matter how materialists and atheists strive to hinder the spread of religious moral values, no matter how they seek to obscure the light of God, Darwinism, the foundation of their worldview, has finally collapsed. Mankind will be freed from such deceptions in the 21st century and has already, by God's leave, begun returning to the purpose behind its creation. With the intellectual elimination of Darwinism, which leads to atheism and loss of faith, religious moral values will spread rapidly, and peace and security will prevail on earth. By the will of God, floods of people will turn to religion in the very near future. And, as promised by our Lord, the light of God will prevail over the whole earth. Rather, we hurl the truth against falsehood, and it cuts right through its brain, and it vanishes clean away. Woe without end for you, for what you portray. They desire to extinguish God's light with their mouths, but God will perfect his light, though the unbelievers hate it. It is he who sent his messenger with guidance and the religion of truth to exalt it over every other religion, though the idolaters hate it.
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Mısır'daki olayların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a hazırlık olduğunu anlatıyor.
Böyle mübarek ayda önemli tecelliyatlar olması lazım. Ve olacak. Bunun böyle olacağını Şeyhimiz, Sultanımız, Üstadımız Şeyh Muhammed Nazım Hakkari Hazretleri senelerdir haykırıp seslendiği gibi özellikle son zamanlarda seslendi. O son zamanlardaki seslenmesinin neticesi ki soru o yönde, efendim ne oluyor bu İslam alemine ki böyle birileri kaçıyorlar, öbürkülerini bırakıyorlar, devletler yıkılıyor, karışıyor. Bunlar olacak mı? Rebiyül Evvel ayında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in rahmetinin tecelli edip doğacağı aydayız. Mehdi Aleyhisselam olan hazırlık aylarındayız. Hatırlarsanız daha size Berat gecesinde Şaban ayında bundan 6 ay önce, 7 ay önce söylemiştik ki koşan namludan çıktı diye. Hedefine doğru ulaşıyor diye. Ehli olan lafımızı anlamıştı. Ehli olmayan en azından takip etsin de tecelliyatı bir görsünler. Bu Mısır'da olanlar. Bunlar olacak. İttihat-ı İslam'a hazırlıktır bunlar. Mehdi Aleyhisselam'a hazırlıktır bunlar. Ha bu arada bundan nemalanıp menfaatlenip ülkemizde de böyle karışıklık çıksın diye uğraşanlar var. Onlar emellerine ulaşamayacak. Bu millet köklü bir millettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da duasına mazhar olmuş olan bir millettir. Bu millet yıkılmak için değil, ayakta durmak içindir. Bu millet Mehdi Aleyhisselam vasıtasıyla bütün İslam alemini, hatta İslam aleminin haricinde Hristiyanlara, Yahudilere, ateistlere, komünistlere ve dinsizlere, materyalistlere dahi huzur getirmek içindir. Nasıl getirmiş geçmişte bunu ispat etmişse, gelecekte ve istikbalde de bunu bu millet, bu devlet, bu milletin evlatları ispat edecektir.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. O günler de çok az. Çok yaklaştık Allah izin verir.
İnşallah.